Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et nous retrouvons Jean-Pierre Foultier pour parler de culture européenne comme chaque semaine. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Alors, dernière semaine au musée, si je ne m'abuse.
Oui, dans les musées d'Europe dans lesquels nous déambulons depuis quelques semaines. Nous avons beaucoup parlé des musées au passé, un peu au présent, pas encore au futur, et je voudrais aujourd'hui prendre comme sujet les nouvelles formes de ce que l'on appelle la muséologie et envisager le musée européen de demain.
Donc ce musée nouveau, ce musée 2.0, il est déjà arrivé ?
Depuis quelques années déjà. J'ai un peu évoqué les semaines précédentes l'entrée en force de la muséographie dans ces institutions qui étaient restées encore très traditionnelles. L'image du musée poussiéreux avec ses guides à casquettes, ses banquettes en velours placées en face de grands tableaux pas toujours bien éclairés. Les musées européens d'aujourd'hui, même ceux qui sont restés dans leurs vieux murs du XVIIIe siècle, ont fait peau neuve. Et je ne parle pas des architectures contemporaines les plus audacieuses qui sont en elles-mêmes des œuvres d'art. Je pense au musée Guggenheim de Bilbao, dont mon camarade Gilles nous avait parlé l'an dernier, ou plus près de nous, du MUSEM marseillais ou du musée des Confluences de Lyon. À l'intérieur même, depuis quelques décennies, la muséographie, donc, a pris place dans la plupart des musées sous la responsabilité des directeurs de musées, des conservateurs.
Alors, peut-être en profiter pour expliquer ce que c'est que la muséographie.
Alors, la muséographie, c'est un peu l'équivalent de la mise en scène au théâtre. Elle vise à mettre en valeur les œuvres présentées dans leur accrochage, les éclairages, l'agencement des espaces, etc. Les œuvres sont parfois présentées dans des décors et le spectateur y est guidé dans son parcours. Et j'invite à ce titre-là nos auditeurs qui ne le connaîtraient pas encore à visiter la nouvelle cité de la tapisserie d'Aubusson. C'est à mon avis un modèle de muséographie vraiment réussi.
Loin des clichés qu'on peut en avoir si on n'y a jamais mis les pieds.
Tout à fait. Et surtout très différent de ce qu'était l'ancien musée avant qu'il soit rénové. Les musées d'Europe ont été obligés donc de se moderniser. Le musée qui se dessine pour demain sera un musée plus collaboratif et plus accueillant, un musée créatif et innovant grâce à ses professionnels, bref, un musée en phase avec la société du 21e siècle. Cette phrase est celle de l'ancienne ministre de la Culture, Françoise Nyssen, lors d'un colloque récent. En effet, l'aspect créatif est essentiel. Et les outils modernes de la technologie et du numérique permettent d'accompagner le visiteur et de le transporter dans la réalité virtuelle. Je vous propose d'écouter un extrait d'un reportage effectué en 2016 par la chaîne Euronews au musée d'histoire naturelle de Berlin.
Que se passerait-il si un dinosaure prenait soudainement vie devant vous? Eh bien, c'est un peu ce qui se passe au musée d'histoire naturelle de Berlin. Il faut quand même s'équiper d'un casque pour voir en réalité virtuelle ces sauriens tels qu'ils étaient il y a 150 millions d'années.
Nous avons ici à Berlin un squelette de girafe à titan. Ce qui se passe dans cette animation, c'est que le squelette devient subitement vivant, un animal en trois dimensions. On voit avec les lunettes 3D comment se déplace le dinosaure, comment il vient vers vous. On a une toute nouvelle expérience sur ce à quoi pouvait ressembler cet animal quand il était en vie.
Voilà, on va quitter ce musée d'histoire naturelle à Berlin pour évoquer aussi des musées qui, aujourd'hui, quand on parle de musées du futur, sont même totalement virtuels.
Bien sûr. Et les grands musées comme le Louvre ou la National Gallery proposent des visites virtuelles. Un géant américain du numérique aussi. Mais restons européens et disons que si le musée virtuel a son intérêt, il ne peut remplacer une visite réelle comme un film à la télé ne remplace pas une séance de cinéma.
Exactement.
Et puis l'art, c'est aussi sortir des murs du musée en allant au grand air. On parle aujourd'hui sur certains sites de musées à ciel ouvert, comme autour des plages du débarquement en Normandie. Le visiteur est guidé par une tablette tactile qui le conduit d'un lieu à l'autre du circuit, parfois à des dizaines de kilomètres. Cela se pratique aussi en ville pour le moderne street art. On parle aussi en Europe, depuis quelques décennies, de villes-musées.
Il va nous falloir une explication de texte pour ces villes-musées.
Tout simplement, je vous en propose quelques définitions. La première, ville qui possède de très nombreux monuments et musées et deviennent, du moins pour leur partie centrale, des centres touristiques importants. Ou encore, ville riche en monuments de valeur et en œuvres d'art. L'architecture est en effet peut-être la moins à l'aise dans les musées, faute de place. Et puis, on n'échange pas Versailles contre l'Acropole comme on échange des tableaux et des statues. La cité de l'architecture de Paris, par exemple, n'expose, dirais-je, c'est très intéressant, mais elle n'expose que des documents d'architecture. Les villes dans lesquelles se trouvent les monuments les plus prestigieux légués par l'histoire sont donc en elles-mêmes des musées que l'on visite, certes sans payer de ticket, mais selon des stratégies mises en place par les offices de tourisme. On y voit des monuments, mais aussi des statues et même de vrais musées. Il y a parmi elles de grandes capitales européennes, mais d'autres villes aussi. Venise et Florence sont à l'évidence des villes-musées, comme le sont Londres, Paris, Vienne, Amsterdam ou Athènes. J'avais parlé il y a quelque temps sur cette antenne des capitales européennes de la culture, pour lesquelles la reconnaissance et le soutien de l'Union européenne permettent d'exploiter leurs capacités patrimoniales. Elles acquièrent ainsi pour un temps ce statut de ville-musée. Un statut qui est par ailleurs critiqué. Le terme ville-musée est parfois utilisé de façon péjorative, le mot musée étant pris ici dans le sens que nous avons essayé de réfuter depuis cette série de chroniques, un musée poussiéreux et passéiste qui fige le patrimoine. D'autres ajoutent que ces villes-musées, et l'exemple de Venise est devenu le plus parlant, ces villes-musées sont devenues des usines à touristes qui dénaturent ce même patrimoine quand ce n'est pas l'environnement lui-même. Probablement n'ont-ils pas tort.
Il y aura en tous les cas encore des choses à inventer autour de ces musées dont on n'a pas fini de parler et qu'on n'a pas fini de visiter. Évidemment, le but c'était de vous inciter à aller pousser les portes.
Tout à fait, et on a le choix.
Exactement, on vous a donné quelques idées, mais c'est encore beaucoup plus large que ça. On aura peut-être l'occasion d'y revenir prochainement et dans l'une de nos prochaines chroniques. En attendant, il en est fini pour les musées.
Une autre aventure pour la prochaine fois.
Eh bien, rendez-vous pour en savoir plus la semaine prochaine. Bonne semaine.
Bonne semaine.
C'était l'Europe et nous, info, conseil et actu. Pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges. 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.